Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, 7e journée à Roland-Garros avec la fin du 3e tour. Et ça y est, on connaît les affiches des 8e de finale du tournoi. Allez, pour vous faire saliver, en voici quelques-unes. Nadal, Sinner, Azarenka, Pavlyuchenkova, Kostiuk, Ziatek ou Djokovic, Musetti. Lorenzo Musetti qui s'est qualifié en battant Marco Cecchinato en un peu plus de 3 heures de jeu et 5-7. Les matchs en 5-7, faut-il les supprimer? Ce sera notre question qui fâche. Il y a également d'autres choses à débattre avec Camille Pin, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois.
Salut Adrien.
Salut Adrien.
Salut les garçons.
Nous évoquerons pour débuter la nouvelle victoire d'Iga Świątek face à Annette Kontaveit, 7-6-6-0. Avec cette question, la Polonaise peut-elle perdre à Roland-Garros cette année? Ce sera notre débat du jour. Sans oublier la stat de Je 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et un autre débat pour finir sur le bas de tableau. Qui pour rallier la finale et affronter un Nadal ou un Djokovic, peut-être les favoris dans le haut du tableau? Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne Iga Świątek avec cette question. Peut-elle perdre Roland-Garros? La Polonaise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après sa victoire sur Annette Kontaveit 7-6-6-0 samedi. Elle a été chahutée au premier set, mais derrière, elle a plutôt déroulé. Est-ce qu'elle peut être battue, Camille?
Déjà, j'aime pas trop la manière dont tu abordes ce sujet. Pourquoi elle perdrait Roland-Garros? C'est déjà, si elle gagne une seconde fois Roland-Garros d'affilée, c'est un exploit. Déjà, quand même, parce que c'est arrivé très peu et qu'aujourd'hui, même si elle a largement confirmé cette année, ce n'est pas elle qui a gagné Madrid. C'est pas... Donc, sauf qu'elle revient sur ses terres et honnêtement, je l'ai vue sur ses premiers tours, c'est la même que l'année dernière. C'est-à-dire que quand elle doit gagner facilement, elle gagne facilement. Là, elle est secouée face à Kontaveit, elle est menée. Elle arrive à gagner quand même en 2-7. Et ça, c'est ce qui lui a permis de remporter Roland sans perdre un set à l'âge qu'elle avait. C'était quand même hallucinant parce que mentalement, elle arrive toujours à remettre un petit coup d'accélérateur pour ne jamais laisser espérer ses adversaires. Et donc, son tennis, il est incroyable sur terre battue. Elle a justement un coup droit très lifté. Elle sent le jeu. Mais c'est surtout cette gestion mentale du score qui fait qu'elle a réussi à gagner Roland. Donc là, je te dirais que moi, je pense, vu la défaite de Sabalenka, qui donc venait de gagner Madrid, je pense que c'était vraiment celle qui pouvait la chahuter avec des grosses frappes. Sabalenka perd, alors il reste Azarenka, il reste Serena, il reste Kenin. Donc il y a encore quand même des clientes, hein, même si les meilleurs sont déjà partis. Mais je dirais que si elle reste en mode rouleau compresseur mental comme elle a été l'année dernière, je pense qu'elle peut aller au bout, effectivement.
Effectivement, la question était un peu provoque, c'est volontaire, tu disais, elle n'a pas perdu.
Oui, mais j'étais obligée de te répondre, forcément.
Elle reste sur 10 victoires.
La question tout à l'heure.
Vu comment tu as prononcé son nom, Adri, je pensais que le débat, c'est l'être, comment doit-on prononcer son nom, en fait.
Camille, il y a aussi ça, Świątek. Donc c'est vrai, tu disais, elle est sur 3 matchs sans avoir perdu le moindre set, plus les 7 matchs de la saison 1, elle est sur 10 matchs à Roland-Garros d'affilée sans perdre le moindre set. Évidemment, on la sent en mode un peu rouleau compresseur. Świątek.
Je n'ai pas compris. Non. Alors moi, je vais rester sur Świątek parce que je pars du principe que si on doit prononcer tous les noms dans tous les pays, à la façon dont on.
Tu fais aucun effort, Bertrand. Voilà,
je crois que quand on arrive en Suède, en Finlande ou en Thaïlande, c'est un peu plus difficile. Donc, je vais rester sur Świątek. Alors effectivement, il y a cette stat, jour après jour, on voit par exemple le jeu 7 et mat justement, qui nous montre avec les petites cases en vert, tous les derniers sets remportés. Donc, quand même un 7-6 aujourd'hui, c'est un exploit d'Annette Kontaveit parce que sur les donc 20 ou 22 derniers sets, Laurent, je ne sais plus, il les a tous gagnés, les 20 derniers sets qu'elle a joué là sur à Roland-Garros. Et maintenant, l'un des sets qu'elle a joué tout court, je crois. Bref,
elle a gagné 20 d'affilée.
20 d'affilée, voilà, avec des scores souvent, il y a beaucoup de 6-0, il y a des 6-1, voilà, il y a très peu de sets qui sont accrochés. Donc oui, je pense qu'elle est largement favorite. Alors, déjà, elle l'était, mais avec la défection de toutes les têtes de série principales, elle l'est encore plus. Et dans ce qu'a dit Camille, je suis d'accord, moi je voyais bien un petit peu quand même Sabalenka, comme outsider numéro 1 ou 2. En tout cas, je la voyais vraiment aller loin.
Sabalenka, on la voit outsider numéro 1 à chaque grand chelem.
Non, mais le problème, voilà, c'est qu'il y a des joueurs ou des joueuses de tournoi lambda et qui ne sont pas forcément des joueurs de grand chelem. Et inversement, Sabalenka, visiblement, il y a un gros blocage en grand chelem. Elle gagne les grands titres, elle gagne des 1000 sans problème. Elle gagne des 500, des 1000, mais ça ne passe pas en grand chelem. Donc, encore une fois, cette défaite-là, je trouve, donne encore plus de poids à l'éventualité d'un nouveau titre de Swiatek. Et puis, l'année dernière, on s'est posé la question sur le mental de la Polonaise. Oui, mais elle est jeune. Oui, mais une fois qu'elle va être en demi, elle va coincer. Oui, mais une fois en finale, elle va coincer. Elle n'a jamais coincé, en fait. Donc, mentalement, elle est très, très solide. Et avec un parcours en plus facile, sans perdre trop d'énergie, ça allait encore plus. Moi, je la vois immensément favorite, quand même, Adrien. Après, la question, c'est peut-elle ne pas gagner? Oui, il peut toujours y avoir quelque chose. Il peut y avoir un jour sans, il peut y avoir un adversaire qui fait un match énorme. Une revanche contre Kenin, peut-être, dans ce tournoi, on verra.
Kenin, elle peut l'affronter, effectivement,
avant la finale.
En demi, ouais.
En demi, ouais.
Stuk en huitième, Kenin ou Safari en quart et une demi éventuelle face
Sakari,
à...
Sakari. Safari, c'est plutôt, c'est plutôt au Kenya.
Des mais envies d'Afrique.
Alors Sakari, moi j'adore Sakari. Ben, Sakari, une joueuse très accrocheuse et tout ça, peut-être sur un match, si elle parvient à voilà, aller accrocher un premier set au tie-break, par exemple. Pourquoi pas, mais Sakari, elle laisse des forces là, dans la bataille. Encore aujourd'hui, un match très long... c'est rarement dans la facilité, donc elle va laisser plus d'énergie que Swiatek. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, Alep, forfait, Barty, blessé, Osaka qui se retire, Kvitova qui se blesse, Sabalenka qui n'arrive pas à tenir son rang. Oui, j'ai l'impression quand même que ça va être difficile de la déloger.
Laurent, tu es sur la même longueur d'onde?
Ouais, pour moi, elle était vraiment la favorite. Moi, pour moi, c'était ma favorite, en tout cas.
Même avant que toutes les autres se retirent?
Oui.
Ah ouais.
Oui, parce que... Okay. D'abord parce qu'elle est tenante du titre, elle vient de gagner à Rome aussi quand même. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de gagner à Rome juste avant Roland. Au-delà du fait qu'elle ait mis 6-0, 6-0 à Pliskova en finale, ce qui est quand même pas commun non plus. Mais surtout, je pense que c'est exactement le genre de joueuse qui est capable d'appréhender un tournoi comme ça où elle arrive comme tenante du titre. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Iga Świątek avant le début du tournoi. Et elle disait ce qui est vrai, c'est la première fois de sa vie qu'elle arrive dans un tournoi où elle est tenante du titre. Et c'est à Roland-Garros. Donc, on pourrait se dire que c'est quand même pas évident à gérer. Et pour moi, mentalement, elle est vraiment... Elle a tout, quoi. Elle est forte techniquement, tactiquement, physiquement et mentalement. Et elle travaille avec une coach mentale depuis plusieurs années maintenant qui lui fait beaucoup de bien. Et c'est une fille qui se pose... assez peu de questions. Et c'est vrai que l'année dernière, elle a déroulé jusqu'à la finale à Roland. Alors, on aurait pu penser qu'elle était... il y avait une forme d'insouciance jusqu'au bout, qu'elle était sur son petit nuage. Mais je pense que c'était beaucoup plus structuré que ça et qu'elle est réellement très, très forte mentalement. Et elle me disait, oui, bah, c'est vrai que quand je suis arrivé en demi-finale, je commençais à entendre parler de titres, tout ça. Et elle disait, bon, je me suis dit, bah, c'est une demi-finale, hein, c'est pas différent du premier tour ou du quart, il y a 2-7 à gagner, point barre. Alors, j'ai dit, mais oui, mais ça, c'est quand même très facile à dire, beaucoup moins à faire. Et elle me dit, bon, bah oui, mais non, en fait, elle ne se pose pas de questions. Donc, moi, je pense qu'évidemment, en plus, maintenant, avec l'hécatombe qu'il y a eu, ça paraît. Franchement, je vois peu de joueuses capables de la battre. Et en plus, je pense que dans ce tournoi, autant l'année dernière, elle avait écrasé tout le monde. Là, elle a quand même eu 2 sets compliqués, potentiellement. Un au premier tour, le deuxième set, c'était le miroir du match d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle avait mis, je crois, 6-0 ou 6-1 au premier set. Elle a failli perdre le deuxième. Là, c'était l'inverse. Et la façon dont elle a géré sa fin de match au premier tour et son premier set aujourd'hui me rend encore plus optimiste pour elle. C'est-à-dire qu'il est vraiment possible de la bousculer. Mais elle a aussi les réponses dans ces cas-là. Et ce n'est pas évident de gérer ces moments-là quand on déroule autant par ailleurs. Donc oui, Bertrand a raison, elle peut être battue. Elle peut ne pas gagner ce Roland-Garros. Mais moi, j'avoue qu'aujourd'hui, ça me surprendrait beaucoup quand même.
Et donc toi, tu as profité, Laurent, de la réouverture des terrasses pour aller deviser comme ça avec Iga Świątek, lui poser des questions.
Non, cher Bertrand, c'était avant le tournoi et c'était... Oui. Un peu comme nous le sommes aujourd'hui en visio.
Ah, c'était en visio.
C'était moins intime, moins sympathique. Je n'ai pas trinqué avec elle, mais c'était quand même très intéressant.
J'ai senti une pointe de jalousie chez Bertrand.
Ouais. Oui, mais
Bertrand... Ah non, non, c'est parce que non, mais c'est... moi, je trouve ça excellent. Alors, je voulais juste vous dire, là, donc, effectivement, les 20 derniers sets de Swiatek à Roland-Garros, je vais le faire vite parce que sinon, ça prendra une heure, mais juste pour montrer un petit peu les performances, les 20 derniers sets de Swiatek à Roland-Garros, 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-1, 6-2, 6-1, 6-4, 6-1, 6-0, 7-5, 6-1, 6-1, 7-6, 6-0.
Et avec ça, tu fais du rap.
Ouais, un rap polonais, hein, parce que là, c'est, ouais, c'est en tout cas, c'est
quand même l'année dernière, je crois qu'il y a eu peut-être un 6-4, sinon c'est que du 6-3 ou en dessous. Cette année, elle a eu 2-7 un petit peu plus compliqué, et moi, je pense que c'est pas plus mal pour elle.
Est-ce que vous devez, si vous deviez dire un nom de joueuse qui pourrait potentiellement l'embêter plus que les autres, peut-être dans l'autre partie de tableau? Ou toi ou Kenny disait peut-être
l'autre pas de tableau. Non, moi je dis Sakari, moi.
Sakari, ouais. Toi, Laurent ou Camille?
Pas en tête là, le bas du tableau.
Ah, je l'ai, je peux te donner le bas de tableau. Il y a Serena Williams contre Rybakina, ouais. Azarenka, Pavlyuchenkova, Zidanec, Sirstea, okay. Vondrousova, Badosa.
Ça, c'est dans le bas,
ouais. Badosa, tu connais bien, Camille.
Ouais, Badosa, je commence à pas mal. Écoute,
tu vois,
une Pavlyuchenkova en pleine folie, mais à part ça,
le problème, c'est pour les filles du bas du tableau, c'est que si elles doivent battre Swiatek, ce sera en finale.
En finale, ouais.
Swiatek est en finale avec la confiance qu'elle a ici. C'est vraiment. Ouais,
c'est des joueuses qui n'ont pas forcément l'expérience de finale de Grand Chelem, donc.
À part Serena, ouais.
Mais... À part Serena, bien sûr, ouais. Mais les autres. Après, on ne voit pas Serena battre non plus Swiatek.
Il y a un tweetos qui m'incite à parier sur la victoire de Tamara Zidanec en finale contre Iga Świątek. Ce qu'il a fait lui il y a quelques semaines, me dit-il, parce qu'elle est en pleine bourre. Donc là, c'est une belle cote. Il y a de l'argent à prendre.
Joli.
Ouais, Zidane, ça, mais moi, je n'irai pas jusque-là. Ouais. Je restais sur Sakari. Pour l'embêter, hein. Je n'ai pas dit pour la battre, forcément. Hein.
Non, mais peut-être, oui, Sakari. Après, une
cause... Badosa, si...
On suivra ça avec.
Si c'est sur le Mathieu, Badosa en 3h12, commenté par, par Camille.
C'est fini le Mathieu, il n'y aura plus de match sur le Mathieu.
Oh,
bah il y a non. Les doubles, il y a les Français.
Il y a les doubles, exactement.
C'est moins long les doubles, Camille.
Bon, en tout cas, on suivra ça avec intérêt. Est-ce que Świątek peut faire le doublé 2 années de suite à Roland-Garros et réaliser une performance, et peut-être même sans perdre le moindre set? On verra ça.
Bah là, ce serait vraiment énorme. Hein. Si ça elle gagne 2 ans, plus sans perdre un set à 20 ans, c'est très très fort quand même.
Ce serait fort. Allez, on enchaîne avec la question qui fâche. La question qui fâche aujourd'hui, faut-il supprimer les matchs en 5-7? C'est un vieux serpent de mer, évidemment, qui revient régulièrement dans les discussions. J'entends déjà Bertrand qui n'est pas d'accord. Il y a d'un côté, effectivement, les puristes qui refusent que l'on touche à la tradition. De l'autre, ceux qui veulent donner un grand coup de pied dans tout ça et qui souhaitent la mort des matchs à rallonge. Djokovic s'est lui-même prononcé pour la fin des matchs en 5-7 lors du dernier Masters. Avec cet argument qui revient souvent, il faut s'adapter à la nouvelle génération, s'adapter au nouveau mode de consommation. Bref, qu'en pensez-vous? J'entends déjà Bertrand. Je ne vais pas te donner la parole tout de suite, Bertrand, parce que je connais déjà ton point de vue. Camille, tiens.
Tiens donc. Moi, pour une fois, je suis d'accord avec Bertrand.
Ah, c'est
grave. Non, j'ai du mal, en fait, à évoluer avec mon temps, manifestement. Je comprends justement les contraintes et, médiatiques, et puis, mais je trouve que ces matchs en 5-7 qui sont uniquement présents en Grand Chelem, alors avant c'était en finale de Masters, je trouve que ça rend ces Grands Chelems uniques, tout simplement, et que ça fait partie de notre histoire. Après, j'étais pour le hockey. Donc, je ne suis pas contre modifier le tennis et l'améliorer, mais peut-être pas sur le scoring. Moi, sur tout ce qui est score, moi, je serais vraiment plus pour d'autres changements, que les joueurs, pour raccourcir, n'aillent pas tout le temps faire des toilet breaks, récupèrent leurs serviettes parce qu'ils y vont moins souvent. Voilà, plein de petites choses qui ne dénaturent pas finalement l'ambiance qu'on a sur des 5-7, mais qui arrivent à raccourcir, parce que c'est vrai que parfois, c'est très long. Moi, je suis pour aussi changer, par exemple, dès qu'il y a un arrêt kiné, que ce soit un temps imparti, et s'il n'a pas le temps de soigner, on ne soigne pas. Il y a eu des matchs là où les filles sont parties 10 minutes, un quart d'heure, derrière, Je pense qu'il faut vraiment faire évoluer. Donc, je reviens à la question initiale. Moi, j'adore ces matchs en 5-7 et même quand il y a deux jeux d'écart, en fait, c'est magique. Et c'est que sur 4 tournois dans l'année.
Et c'est plus qu'à Roland-Garros sur les 5-7 et deux jeux d'écart.
Voilà.
Pas Bertrand tout de suite. Laurent d'abord.
Vous ne pouvez pas m'écouter, vraiment pas. Hein.
Je connais ton point de vue.
Comme je connais un petit peu la position de Bertrand sur le sujet, je pense qu'on va tous être d'accord. Mais pour moi, vraiment, ce serait un crime contre le tennis de supprimer le format en 3-7 gagnant. Je vois, c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais je le pense vraiment. Et je dis ça, quand il a été supprimé en finale des Masters 1000, j'y étais pas opposé, on va dire. Je comprenais en tout cas les arguments. Quand on est dans la saison sur Terre, qu'il faut enchaîner Madrid et Rome, par exemple, en une semaine et que... il y avait eu une finale en 4h30 à Madrid. Là, je pouvais l'entendre. Le jeu est devenu très physique, pas de souci. Mais la suppression en finale du Masters, je la trouve grotesque. Je pense que sur le dernier match de l'année, si on peut jouer 3-7, on peut en jouer éventuellement 2 de plus. Ça ne remet rien en cause derrière. Mais en grand chelem, non, ce n'est pas possible. On peut pas. C'est ce qui vraiment fait la grandeur des 4 grands tournois. Et aujourd'hui, même chez les hommes où c'est très, très, très verrouillé, des Masters 1000, il n'y a pas 50 joueurs qui en gagnent, mais il y en a quand même pas mal qui en gagnent. Et pour moi, si des joueurs comme Thomas Berdych, des joueurs comme Joe Wilfried Tsonga, par exemple, ont gagné des Masters 1000 et n'ont pas gagné de Grand Chelem, ben, y a une raison. Parce que gagner 2-7 contre un Djokovic, un Federer ou un Nadal dans un tournoi lambda, c'est dur, mais c'est faisable. En gagner 3, c'est faisable, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et cette difficulté-là, il ne faut pas y toucher. C'est ce qui fait le prix et l'importance.
La valeur aussi du tournoi.
La valeur, exactement. C'est le mot que je cherchais. Et pour moi, c'est dans les tournois du Grand Chelem que se fait la différence entre les bons et les très bons joueurs, les très bons joueurs et les champions, et les champions et les immenses champions. Et si on passe à un format de 7 gagnants en Grand Chelem, on va niveler par le bas pour moi. Donc, ce serait vraiment une catastrophe absolue et j'arrive pas à comprendre que des puristes et des fans de tennis puissent être pour ça. Et je sais pas si, avec un format 2-7 gagnant en Grand Chelem, le tennis va gagner de nouveaux fans. Ça, j'en sais rien. C'est pas du tout garanti. En revanche, je suis persuadé qu'il va en perdre. Ça, j'en suis certain.
Donc, tous ces arguments sur essayer de rajeunir le public, parce qu'on entend souvent cette stade.
C'est un non-sens complet. Enfin, rajeunir quoi? S'ils n'aiment pas le tennis, ils n'aimeront pas plus le tennis en 3-7 qu'en 5-7. Un match de tennis en 3-7, ça ne dure pas 10 minutes. Hein. Donc, si le temps de cerveau disponible est de 5 minutes ou de 10 minutes pour les jeunes parce qu'ils regardent des vidéos, moi, je pense que ce à quoi il faudrait s'attaquer plutôt qu'aux règles du tennis, c'est au ramollissement des cerveaux. Et au fait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus avoir d'attention au-delà d'un certain nombre de minutes. Je ne parle même pas d'heures, là, de minutes. Donc ça, c'est un vrai problème. Peut-être qu'on est en train de faire beaucoup de choses pour l'écologie sur la planète. Bah, faisons peut-être des choses pour les cerveaux des générations qui vont venir, et même des actuels, d'ailleurs, parce qu'on est tous plus ou moins accros à nos téléphones. Il y a des études qui sont souvent sur le cerveau hein, depuis, effectivement, que les téléphones, que les smartphones existent. Bah, il y a un temps d'attention qui est de moins en moins important, les gens lisent de moins en moins, les gens sont de plus en plus tout le temps dessus et on a moins d'attention et donc on est de plus en plus impatient. Et donc voilà, donc, comme cette impatience se crée, est créée par ce phénomène, il faudrait s'adapter à cette impatience. Dans ces cas-là, Adrien, là, c'est comme si tu posais la question, faut-il jouer les matchs de Coupe du Monde de foot en 60 minutes, en deux fois une demi-heure? Bah non, on ne va pas changer les règles du foot, même si en ce moment, on en parle aussi de faire moins de 90 minutes, c'est absolument aberrant aussi, parce que soi-disant, les jeunes ne peuvent pas tenir 90 minutes. Ben oui, mais ils regardent quoi? Ils regardent que les buts. Ben oui, mais les buts dans un match de foot, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est l'aboutissement peut-être d'une tactique, d'un moment où on a fatigué l'adversaire, d'un pressing, etc., etc. Donc, ça a une raison. Ça ne vient pas comme ça pile d'un coup. Donc, le tennis, c'est pareil. On ne va pas changer les règles. Là, le dernier argument de Laurent est très bon. C'est-à-dire qu'on ne va pas attirer des nouveaux fans. S'ils n'aiment pas le tennis, que ça se passe en 5 ou en 3, ils ne regarderont pas. Par contre, tous les fans, les vrais fans de tennis, les dingues de ce sport dont nous sommes, mais dont sont également énormément de gens, ceux qui nous suivent sur Twitter, par exemple, etc., tous ceux-là bah, ils vont être dégoûtés et ils arrêteront. Les grands chelems perdront complètement de leur intérêt. Quel sera l'intérêt d'un grand chelem au meilleur des 3-7? Comment on fera la différence entre Cincinnati et un US Open, entre un Madrid et un Roland-Garros? Il n'y aura plus de différence. Ce sera finalement la même chose. Alors, la seule chose où je suis éventuellement peut-être pas d'accord avec Laurent, c'est sur la finale du Masters. Pour moi, le Masters, c'est un tournoi qui ressemble plutôt au Masters 1000, on va dire. En tout cas, c'est un tournoi qui se joue au meilleur des trois maintenant. Bon, ça ne me choque pas que la finale du Masters soit au meilleur des trois.
Je ne peux pas dire que ça me choque, mais je ne voyais pas l'absolue nécessité de supprimer les deux derniers sets.
Non, non, voilà. Mais c'est pas, non, mais bon, ça vient en fin de saison. En toute fin de saison, les joueurs sont crevés. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent cramés quand même au Masters. On l'a vu Medvedev il y a 2 ans, on l'a vu Rublev l'année dernière. Bon, donc, à la limite, là-dessus, je veux bien faire cette concession-là, comme on l'a fait déjà finalement sur tous les autres tournois. Mais sur la Coupe Davis, qui n'existe plus, mais j'étais complètement contre que ça passe en 3-7 aussi. D'ailleurs, ça a totalement flingué la compétition, ça n'a plus d'intérêt. Enfin, si on la revoit un jour. Et les grands chelems, non, il faut garder cette spécificité. Qu'est-ce qui fera la spécificité d'avoir gagné Roland-Garros si c'est au meilleur des trois ou Wimbledon au meilleur des trois?
Et puis, si on est d'accord, après, moi j'ai une interrogation, je me fais volontiers l'avocat du diable, mais on parle du public, certes, on perdra peut-être du public, mais le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, principalement des diffuseurs. Si les diffuseurs disent, nous on perd, il y a beaucoup moins de monde qui regarde les matchs en 5-7, on a besoin de redynamiser les choses,
c'est sinon, pas vrai.
Les droits télé vont baisser. Non mais toi, est-ce que ça pourrait arriver genre
sur un grand chelem, Adrien, ça joue toute la journée, ça joue de 11h à 23h. Donc forcément, dans ces matchs en 5-7, celui qui n'aime pas les 5-7, on zappe en général, on va d'un match à l'autre. Il n'y a pas qu'un match dans la journée. Donc, qu'est-ce que regardent les gens? Qu'est-ce qu'ils vont voir en priorité quand ils zappent? Ils vont voir un 5e set.
Donc, c'est pas faux.
Oui, ah, oui. Justement, mais le truc, c'est que l'idée de des génies qui sont derrière cette potentielle révolution, c'est de supprimer les temps faibles. Et oui, il y a des temps faibles dans un match de tennis. Bien sûr qu'il y a des temps faibles. Le problème, c'est que si vous supprimez les temps faibles, vous supprimez par définition les temps forts qui vont avec et qui succèdent à ces temps faibles. C'est un set qui va se terminer au tie-break, à 7-6. Si demain, on fait des sets en 3 ou 4 jeux, il n'y aura plus de temps faibles, mais il n'y aura plus de temps forts non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est le prix pour savourer un tie-break au bout de 30, 40, 50, parfois une heure de jeu, 50 minutes ou une heure de jeu, c'est tout ce cheminement-là. C'est comme si tu commençais un film par la scène la plus forte et le climax du film. Ça n'a pas de sens.
Les temps faibles, c'est ce qu'a dit Camille. Les temps faibles aujourd'hui, ça peut être le temps pris entre deux points, le temps pris au service. Marine Cilic, quand il sert, ça peut être un temps faible dans un match parce que sa jambe qui bouge et ses 50 rebonds, c'est un peu long.
Même dans le jeu, tu as des temps faibles.
Dans le jeu, bien sûr qu'il y a des temps faibles. Mais alors, c'est sûr qu'il y a des buts de set.
Mais sans toucher aux sportifs, tu vois.
Non, mais sans toucher aux sportifs, il y a déjà des temps faibles. Les time-out médicaux, je crois que la finale de. C'est quelle finale? Dubaï, c'était Muguruza, Krejcikova, quelque chose comme ça. Dubaï, Camille, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il n'y a pas longtemps. Elle perd le premier set, la Tchèque, c'est largement, je crois. Enfin, non, peut-être pas, c'est peut-être un set serré. Enfin, en tout cas, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 14 minutes, ou 12, entre 12 et 18, enfin, ouais, voilà, entre la fin grotesque. Du premier et le début du deuxième. Alors ça, si ce n'est pas un temps faible, là, effectivement, moi, j'ai zappé. J'ai regardé cette finale, j'ai zappé et je ne suis plus revenu parce que après, j'avais oublié qu'il y avait ce match. Je passais à autre chose. Là, oui, on passe à autre chose, clairement. S'il ne se passe rien, c'est sûr que… Voilà. Mais
ça, c'est autre chose, la gestion des temps faibles. C'est quand même
on veut raccourcir. Donc, raccourcissons déjà les choses qui ne font pas partie du jeu, qu'on peut raccourcir.
Le temps pris entre la première et la deuxième balle aussi, qui est peut-être encore plus insupportable que le temps pris avant la première balle.
Ouais. Alors, une des techniques qui nous est possible avec les players aujourd'hui, hein, ce soit sur les téléphones ou sur les tablettes, c'est de pouvoir commencer le match avec un peu de retard et d'avancer entre les temps faibles. Moi, je vous prends un exemple. Ouais. Le Gasquet Nadal, il commence à 21h. Je l'ai commencé à 21h20, mais je l'ai recommencé à zéro. Et entre chaque service de Nadal, j'avançais de 10-20 secondes pour éviter le « je m'essuie », machin, etc. Et finalement, ça a accéléré un peu. Alors, voilà.
Un très bon argument, très bon argument, mais sauf qu'en 2021, pour ne pas être spoilé, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'en ai un bon exemple ici, puisque Laurent Vergne m'a spoilé la demi-finale de Top Chef dans toute sa splendeur cette semaine, donc, que je voulais voir en replay. Donc, force, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de ne pas avoir.
Il faut vraiment couper son téléphone.
Il faut couper son téléphone, sinon les replays, c'est un peu compliqué. Mais j'y arrive quand même.
Pour finir, ce qui a été mis en place sur les grands chelems en dehors de Roland-Garros, c'est-à-dire un 5e set avec un tie-break plus ou moins différents selon les tournois, ça va quand même un petit peu dans le bon sens pour réduire, qu'on n'ait plus des matchs qui se terminent à 68-70 ou…
Non, mais ça n'a rien à voir des 60.
C'est arrivé une fois, dans l'histoire du tennis, une fois.
Mais pour moi, c'est deux débats différents, ça.
Oui, c'est deux débats différents, mais toi, est-ce que ça, c'est…
Adrien, ce match à 70-68, il est au musée, il est au Hall of Fame du tennis à Newport. Et si il n'était pas, enfin, s'il n'y avait pas eu 70-68 dans ce match, c'est un événement historique du tennis. Nicolas Mahut ne serait pas au Hall of Fame du tennis. John Isner ne serait pas au Hall of Fame du tennis. C'est quelque chose qui a marqué. Oui. Et c'est arrivé une fois. Les matchs en 5-7, les matchs au-delà de 6-6 au 5e dans un grand chelem, c'est entre 2 et 3% des matchs.
Exemple de Anderson Isner en demi-finale de Wimbledon 2018.
Pareil, 3%.
24, sauf que derrière Anderson, pour jouer sa finale, il est quand même moins…
Donc pour un match, pour deux matchs, un match qui a eu lieu en 2008, c'est ça, Isner-Mahut, et pour celui-ci, donc ça, pour deux matchs, on change toutes les règles du tennis.
Ça me va.
Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est le débat du tie-break au cinquième, il n'est pas corrélé à la longueur des matchs. Quelqu'un qui a regardé un match jusqu'à 6-6 au cinquième, qui est tie-break ou pas, il va continuer à regarder. Enfin, ça…
En tout cas, qui est tie-break au cinquième jusqu'en demi-finale. Par exemple, à Wimbledon, demi-finale, Isner Anderson se joue au tie-break du cinquième. Moi, je suis contre, mais admettons, mais pas en finale. En finale, là, c'est le dernier match.
Donc, il n'y a plus rien derrière. Il faut arrêter là-dessus, c'est le concours Lépine de l'idée débile. Si tu veux mettre un tie-break au cinquième, tu mets un tie-break au cinquième. Mais le tie-break, c'est 6-6, premier à 7 points.
Donc, le tie-break entre Djokovic et Federer, à 12-12, c'est ridicule.
En tout cas, ce qui serait important déjà, c'est que les quatre grands chelems aient la même règle. À un moment donné,
il n'y en a aucun qui a la même règle.
L'US Open avait sa spécificité, et moi, c'est ce que j'aimais, c'est qu'on savait qu'à l'US, il y avait un tie-break à 6-6 au cinquième. C'était le seul tournoi comme ça.
Mais là, comme chaque grand chelem fait un truc différent, en tant que téléspectateur, et même quand on est impliqué, on ne sait plus. C'est quand même hallucinant. Tu dis, mais alors, c'est quoi la règle, quoi.
Même Joko ne savait plus en finale.
C'est une blague, quand même. Enfin...
Alors moi, j'ai fait un tweet hier suite au match Davidovich-Fokina contre Rude, qui était assez extraordinaire, avec un dernier jeu dans le cinquième set. Donc, le 12e jeu, le cinquième set, qui dure pratiquement 15 minutes. Il y a eu tout dans ce jeu-là. Il y a eu le service à la cuillère pour sauver une balle de break, il y a eu un lob gagnant sur balle de match pour Rude, une chute de Rude, il y a eu à peu près tout, avec une ambiance de folie, énorme ambiance sur le court 14. Et j'ai mis dans mon tweet, j'ai parlé de ce match et j'ai dit à regarder pour les fossoyeurs du tennis qui veulent supprimer les 5-7. J'ai eu des réactions là-dessus, même direction de gens du milieu du tennis. Et on a pu me dire que mais ça aurait été la même chose si ça avait été en 3-7, même intensité, public aussi chaud, etc. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. D'abord, au milieu des 3-7, ça aurait duré moins longtemps, et là il y avait clairement la dimension physique qui jouait, parce qu'ils étaient tous les deux au bout. Davidovich Fokina, je pense, était à la limite des crampes. Sur le lob gagnant, il ne le joue pas, mais on voit que sa jambe se bloque un petit peu, etc. L'intensité de cette fin de cinquième set, elle venait du fait que c'était un cinquième set, et aussi au niveau du public. Donc, je ne suis absolument pas d'accord quand on me dit il peut y avoir exactement la même intensité sur un 3-7. Peut-être, mais ce sera extrêmement rare. Peut-être un Team Djokovic au Masters l'année dernière, parce que c'est un match énorme qui dure aussi d'ailleurs 3h30. C'est aussi de par sa durée qu'il devient assez fantastique, en plus du niveau de jeu. Et là, sur ce match-là, la dramaturgie, elle vient justement qu'on est dans un cinquième set, que ça joue depuis très longtemps, que les deux sont au bout physiquement et qu'il faut trouver des ressources pour aller chercher ce match. Donc, pour moi, c'est un très bon exemple du pourquoi il ne faut pas supprimer les 5-7. Et l'argument de me dire ça aurait été la même chose en 3-7, je le rejette. Je trouve que non, ça ne serait pas la même chose si c'était en 3-7. Ça ne pourrait absolument pas être la même chose.
Laurent, tu voulais conclure par…
Ouais, deux petites choses très rapides pour finir. D'abord, il ne faut pas confondre… l'intérêt d'un match avec sa durée. Et moi, je fais l'analogie avec le cinéma. Un film, c'est pas le fait… Il y a des films d'une heure et demie qui sont interminables, et il y a des films de 3 heures devant lesquels vous ne voyez pas le temps passer. C'est exactement pareil pour un match de tennis. Et enfin, pour finir, je voudrais rappeler une phrase de Gilles Simon qui l'avait dit à notre camarade Rémi Bourrière dans un papier à ce sujet-là, sur cette thématique. Et Gilles avait dit: le public, où on l'éduque, où on cède à ses caprices. Et j'ai l'impression, malheureusement, que la tentation de céder à ses caprices est de plus en plus grande. Et c'est dommage.
Ne crachons pas sur l'histoire de ce sport.
Je crois que tu allais dire ne crachons pas sur Gilles Simon. Je vais dire oui, quand même.
Ouais, quand même.
Allez, on passe au thème suivant avec la stat de jeu 7 et maths. La stat de Josette et Matt aujourd'hui est une stat sur la jeunesse italienne, puisque pour la première fois depuis Roland-Garros 1990, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, une nation a réussi à placer deux représentants de moins de 20 ans en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Yannick Sinner qui a gagné en 3-7 et Lorenzo Musetti qui a également gagné lui en 5-7. Les précédents, c'était les États-Unis en 1990. Est-ce que vous vous rappelez du nom des deux,
oui,
deux représentants de moins, oui, de 20 ans?
Nous avons travaillé un petit peu avec Laurent cet après-midi. Michael Chang et Jim Courier.
Exactement.
Deux joueurs qui ont gagné des grands chelems. Donc, c'est plutôt de bon augure pour nos amis italiens.
Ouais, les Italiens, moi, quand j'ai vu cette stat, je me suis dit, on ne peut pas en dire autant du tennis français. Le tennis italien vit une période très faste. C'est le moins qu'on puisse dire.
Chez les garçons, le tennis italien vit sans arrêt des périodes très fastes, puisque pendant la disette des garçons, ça faisait longtemps la disette, hein, c'était les années 70, Panatta, ouais, Barazzutti, il n'y a pas eu de garçons très forts, on va dire, hein, pendant longtemps. Mais par contre, il y a eu les filles. Il y a eu Schiavone qui a gagné à Roland, il y a eu Panetta qui a gagné
l'US
Open, Vinci en finale, Errani en finale à Roland-Garros. Donc, ils ont eu une très belle période féminine et maintenant, place aux garçons, effectivement. Alors, on pourrait revenir au débat qu'on avait l'autre jour concernant les Français. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est vraiment dû à un travail de la fédération? Apparemment, il se dit que oui, que la fédération travaille très, très bien pour sortir des jeunes talents. Est-ce que c'est le hasard et qu'il y a deux joueurs très forts de la même, ou trois, on va prendre Berrettini aussi, de la même génération qui arrivent en même temps? Voilà, moi je pense que c'est pas du hasard quand même, quoi. C'est comme ça toute une école, même si ces joueurs ne jouent pas du tout pareil les uns les autres.
Hein, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'en plus ils ont trois.
Ah, et c'est vraiment des profils très différents.
Qui sont vraiment très différents, c'est ouais, encore mieux même.
Très différents, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et alors, il y en a un qui a un revers à une main et qui est très fantasque, il y en a un qui est très sérieux, revers à deux mains, très solide, Sinner. Et un autre qui est un gros costaud en puissance, Berrettini. C'est vrai que c'est des profils complètement différents. Mais alors là, avenir doré vraiment pour le tennis masculin italien dans les 10-15 ans qui viennent.
Ce qui est sûr, Bertrand, c'est que bien sûr qu'ils ont chacun un niveau de jeu avec un style qui leur est propre, qui a eu du travail. Après, moi, je pense qu'il y a une petite part d'émulation collective à un moment donné, qui ne fait pas tout, parce que ce n'est pas parce que tout d'un coup, on est beaucoup, que tout le monde va bien jouer. Il faut quand même bien jouer au tennis. Mais je dirais qu'il y a une petite part de ça, et que là, dans le tennis italien, avec Berrettini qui explose là, il y a deux ans, est-ce que ça n'a pas aussi boosté
je pense que...
par Sinner, qui a été boosté par... en fait, moi, je l'expliquerai par le fait que quand il y en a un qui arrive très haut, eh ben, on ne se satisfait pas d'être juste 50e mondial, par exemple, quand il y en a un qui est 20. Enfin, ça permet de se dire, ah oui, mais il faut que j'aille plus loin.
Mais ça vient peut-être de Fognini, hein, à la base, parce qu'il a gagné aussi un Masters 1000. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour en revenir à ce que tu disais l'autre jour, parce que dans le débat sur les Français, tu disais que ce qui était important, c'est d'avoir de la densité. Pas forcément le super champion, mais la densité. Les Italiens, ils l'ont en ce moment, la densité. Parce qu'au-delà de ces joueurs-là, il y a plein de joueurs qui sont
un peu en top 100.
Des Caruso, Sonego, Travaglia, des Cecchinato.
Ils sont combien dans le top 100?
Ils doivent être 10, quelque chose comme ça. Et un peu derrière aussi. Et tous ces joueurs-là, les Caruso et Travaglia, avant, c'est des joueurs de Challenger. J'ai l'impression que cette émulation fait que même les seconds couteaux italiens, qui sont nombreux, ont progressé également. Et qu'avoir le match qu'a fait Caruso, d'ailleurs, contre Fognini à l'Open d'Australie, ce fameux match où ils ont failli se mettre sur la figure à la fin, ils se sont mis verbalement, quoi. Il a fait un match énorme en 5-7. Donc, oui, il y a une émulation qui fait que il y a à la fois la qualité individuel et des joueurs qui vont être très forts, qui vont être dans le top 10, qui vont être peut-être qui vont gagner des grands chelems, pardon, et également une densité qui se fait avec des joueurs un peu en dessous, Lorenzi qui est un peu au bout du rouleau maintenant, Seppi qui arrive à la fin aussi, mais ça fait un certain nombre de joueurs et donc ça plaide aussi pour la réussite de la fédération.
On aura hâte de les suivre au prochain tour, hein. Il y a un alléchant Sinner Nadal et un Musetti Djokovic.
Donc ils seront tous les deux, en quart. Hein, ils seront tous les deux en quart, donc ils vont s'affronter en demi.
Écoute,
franchement, j'espère pour eux. S'ils sortent Nadal et Djoko au prochain tour pour pas s'affronter en demi, ce serait dommage.
En tout cas, ça donnera l'occasion d'en reparler. Et évidemment, on passe à la dernière partie de notre émission avec cette fois-ci pas une affiche, mais un deuxième débat. Le débat d'aujourd'hui, c'est un débat qui va concerner le bas de tableau. Parce qu'on parle énormément du haut de tableau, effectivement, avec Djokovic, avec Nadal. Cette fois-ci, on va parler du bas du tableau. Avec cette question, qui pour rallier la finale dans le bas de tableau? On a plusieurs affiches qui auront lieu dimanche. Zverev Nishikori, Davidovich Fokina Delbonis, Tsitsipas Carreño Busta et Garin Medvedev. Qui voyez-vous aller le plus loin dans ce bas de tableau? Allez Camille.
Moi, je pars sur Tsitsipas.
Tsitsipas.
De par ses résultats et ce qu'il est en train de prouver, qui fait partie des tout meilleurs maintenant. C'est plus juste le jeune qui vient relativement détrôner de temps en temps les meilleurs. Donc non, moi, Tsitsipas. Après, le Zverev peut être dangereux aussi sur terre battue, mais il avait toujours eu quand même des petits soucis en grand chelem qu'il est en train de gérer manifestement petit à petit. Mais je trouve que mentalement, la Tsitsipas, il est dedans.
Je suis évidemment d'accord. Je dirais également Tsitsipas. D'abord parce qu'il a passé un test important contre John Isner au troisième tour. Un match qui était loin d'être facile. Isner a joué le feu pendant un 7,5, même bien au troisième encore. Mais vraiment, pendant un 7,5, il dominait. Il gagne le premier, logiquement. Il a une balle de break à 3-3 au deuxième, extrêmement importante, que Tsitsipas sauve brillamment avec un coup droit gagnant qui lui permet derrière de prendre la confiance, de jouer mieux, de faire une bonne fin de deuxième set. Il gère très bien le tie-break du troisième, qui est le moment clé, parce que derrière, on savait que si ça durait trop longtemps, bah, Isner allait un peu couler, ça a été le cas. Donc ce match-là, match piège, il est bien négocié. Attention au tour suivant, autre piège complètement différent celui-là, ce ne sera pas le gros serveur et les échanges, les matchs sans échange, ce sera l'inverse, ce sera un Carreño Busta très solide, demi à l'US l'année dernière, car à Roland, qui est de plus en plus solide en grand chelem, et donc c'est également un excellent test. S'il passe celui-là, ouais, franchement, je le vois bien aller en finale, parce que Zverev me semble un tour en dessous quand même sur cette surface, et Medvedev a le tableau probablement le plus simple, entre guillemets, hein, évidemment. Mais on a l'impression que sur cette surface, il peut aussi à tout moment retomber dans ses travers. Et puis, il n'a pas cette science du jeu sur terre battue qu'a Tsitsipas. La gestion du match de Tsitsipas contre Isner me conforte dans ce que je pensais déjà avant, qu'il était le favori dans cette partie de tableau.
Mais tu as raison de dire qu'Areno Busta peut être le trouble fait.
Ah oui, c'est un match très dangereux.
Carrément.
Laurent ?
Je suis d'accord que Tsitsipas est le plus fiable par rapport à ce qu'il montre sur terre battue globalement, ce qu'il montre depuis le début du tournoi aussi. Je suis d'accord sur le fait que c'était, bon, même s'il a perdu un set, c'était une très bonne victoire pour lui contre Isner. Un match qui peut lui faire du bien, à mon avis, et où il devait être un petit peu nerveux quand même, et il l'a vraiment bien négocié. Maintenant, allez, histoire d'être un peu joueur et de mettre un peu de débat dans le débat, moi, je trouve quand même qu'on sous-estime toujours Alexander Zverev. Je trouve que c'est un joueur qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Alors on va me dire, oui, mais Madrid, c'est pas pareil. Mais enfin, il a quand même gagné un Masters 1000 sur terre battue. Il en avait déjà gagné à 20 ans, parce qu'il avait gagné à Rome il y a quelques années déjà.
Oui, mais en altitude, c'est pas pareil.
À Rome, en altitude?
Non, à Madrid, cette année. Mais à Rome, il y a quelques années, là, on est en 2021.
Et je pense qu'il traîne encore ce boulet de sa période qu'il a eue pendant... deux bonnes années, où effectivement, en grand chelem, il passait systématiquement au travers. Mais enfin, ça, c'est terminé. Zverev,
justement, on ne l'attend pas, donc il ne devrait pas ressentir de pression et il devrait pouvoir maintenant
faire demi.
Oui, mais tu vois, tout à l'heure, tu faisais référence à ses petits soucis en grand chelem, mais pour moi, il n'a plus vraiment de petits soucis en grand chelem.
Non, j'ai dit, mais il les a réglés. Ouais. Que peut-être qu'il devrait profiter du fait que les gens ne l'attendent pas à cause de ça. C'est peut-être à tourner en positif. Toi, il a
je
ne
sais pas
être...
si les gens ne l'attendent pas, mais moi, je pense que lui, il s'attend. Il a fait finale à l'US Open. Il est maintenant, quand il n'est pas bon, il perd en quart, en gros. Ouais. Et les joueurs qui le battent maintenant, il ne perd plus contre eux les joueurs face auxquels il perdait il y a encore 2 ans. Hein. Donc maintenant, pour moi, il est vraiment devenu un... Il n'est pas moins candidat au titre que Tsitsipas, pour moi. Bon, pas moins. Et en revanche, là où je suis d'accord, c'est que il a quand même une capacité parfois à s'auto-détruire, mais avant, il le faisait sur toute la durée d'un match. Maintenant, il arrive à cantonner ça sur une partie du match. Donc, il arrive souvent à s'en sortir. Mais si jamais il devait retrouver Tsitsipas en demi, par exemple, moi, je ne suis pas du tout sûr que ce serait aussi déséquilibré qu'on sous-entend un petit peu, quoi. Et je pense qu'il serait temps de montrer un petit peu de respect à Zverev.
Zverev, tu te rends compte que là, il est en train de passer des paliers, je trouve, tu en parles au niveau mental. Et avant de passer ce palier, il était déjà dans les top 5.
Donc, il a été numéro 3 mondial à 20 ans, mais c'est aussi son boulet. Ouais. Parce que le problème, c'est que comme il était numéro 3 mondial à 20 ans, Et quand il gagne un Masters 1000 à 20 ans et qu'il est top 3 à 20 ans, on n'a pas vu ça depuis Djokovic 10-12 ans.
Oui, alors qu'il était perfectible encore. Je veux dire, toi, il
était très perfectible. Et ce qui fait que derrière, on l'a très vite enterré. On a dit, bon, bah voilà, Zverev, c'est terminé.
Ah, il ne confirme pas, quoi. Ouais.
Voilà, mais Zverev, il est encore assez jeune. Il est même très jeune et il avance à son rythme. C'est moins spectaculaire que d'autres. Mais moi, je reste persuadé que c'est un joueur qui progresse. Ce n'est pas très spectaculaire, mais je pense, car c'est vrai qu'il a raté une énorme occasion à l'US l'année dernière. Hein, c'est terrible. Il mène de 7-0. Il sert pour le match. Donc,
mais on peut dire aussi qu'il est miraculé d'arriver en finale parce qu'il est aussi mené de 7-0 en demi et un 7-5-2 en quart.
Oui, donc, c'est vrai. Mais quand tu vois, une finale de Grand Chelem, c'était pas arrivé depuis 70 ans à l'US qu'un mec qui mène de 7-0 en finale la perde. Donc, tout ça, c'est quand même des trucs.
C'était la quatrième dimension.
Oui, c'était un match très particulier. J'espère pour lui qu'il n'a pas raté l'occasion de sa vie. Mais moi, je reste confiant pour Zverev et je pense qu'il faut vraiment compter avec lui dans ce tournoi.
Bon, Zverev ou Tsitsipas, alors si je vous entends bien, les favoris.
Avec logique, un Carreño Busta. Il n'y a pas
une petite pièce sur un outsider qui pourrait sortir du chapeau.
Bah, Medvedev, peut-être, il peut surprendre encore. Hein, alors lui, pour le coup, on parle de pas de pression. Vraiment, oui, après, à force d'avoir répété que s'il gagnait un match, son tournoi serait réussi, bah, il en a gagné 3. Opelka, ça pouvait être un test. Il est resté une heure et demie sur le court. S'il va en quart contre Tsitsipas, je pense que pour Daniil, ce sera vraiment très, très confortable parce que de toute façon, son tournoi, il sera déjà réussi. Et moi, je pense qu'il a une idée derrière la tête, Medvedev, dans cette quinzaine. Donc, il faut se méfier de lui. Et lui, pour le coup, c'est un joueur qui sait faire dans les grands chelems, qui a largement dominé Tsitsipas en demi à Melbourne, même si c'était un contexte différent. Tsitsipas était peut-être usé par son match contre Nadal, mais ouais, Medvedev, c'est le joueur le plus intrigant de la quinzaine pour moi dans le tableau masculin à suivre. Vraiment.
Petite anecdote par rapport, enfin, c'est pas trop dans le débat, mais par le match de Tsitsipas d'hier contre Isner, vous avez vu comment il s'est échauffé pour ce match?
Oui. Isner. Ouais, il a
mis un sparring qui servait un mètre derrière le carré de service. C'est-à-dire qu'il se mettait au milieu du court pour servir le plus fort possible pour que ça puisse se mettre à peu près en même situation que de se retrouver face à Isner. Et malgré ça, je peux vous dire qu'il a eu beaucoup, beaucoup de mal à le relancer, en tout cas pendant un set et demi.
Je crois que c'était une photo de notre camarade Constance de jeu 7 mat. D'ailleurs, moi, c'est là que je l'ai vu.
Exact, voilà. C'est vrai.
On la salue.
Pour terminer sur ce débat, on va pronostiquer un match. On a choisi Alexander Zverev contre Kei Nishikori. Qu'est-ce que vous voyez comme match? Et je rappellerai les scores derrière.
Alors, moi, j'irai sur du 4-7 Zverev.
4-7 Zverev. Laurent?
Il va falloir commencer à jouer tactique là, dans ce concours de pronos. Donc, j'aurais bien dit Zverev 4 aussi, mais je vais dire Zverev 3. Ça m'a réussi la dernière fois avec Federer.
Très bien, comme ça, on va tous dire un truc différent.
C'est-à-dire Nishikori
Non, Nishikori, c'est le roi des 5-7, on l'a dit, Zverev aussi d'ailleurs.
Oui,
je vois bien un match assez décousu, comme souvent les matchs de Zverev, comme souvent les matchs de Nishikori. Donc, quitte à être décousu, 5-7, désolé pour ceux qui sont contre les 5-7, il va peut-être y avoir encore un 5-7, c'est terrible, ce ne sera pas au meilleur des trois jeux. Et donc, je vois Zverev en 5.
Je ne crois pas une seconde à mon prono d'ailleurs, mais c'est pas
tu l'assumes.
Je crois que c'est Camille qui est peut-être le plus proche, mais bon.
C'était moi qui ai commencé.
Ça joue tactique, c'est normal.
Hein. Quand ça va être Nishikori en 3, tout le monde va avoir fou demain.
D'ailleurs, très bonne réflexion, ça, Adrien. Il faudrait peut-être de temps en temps pas que ce soit toujours Camille qui pronostique en premier.
Non, mais c'est moi qui prends la parole en premier.
Ouais. Ça, c'est pas Adrien qui me l'a changé. Je vous fais un petit point score parce que c'est hyper serré sur les pronos. Laurent 10, Camille 11, Bertrand 9.
Ah bah non.
Ah bah si.
Bah non, moi j'ai eu la bonne
aussi.
Gagnante.
J'ai Goff aussi aujourd'hui. Hein.
Corey Goff s'est qualifié, Bertrand. Ouais.
Ah, mais là, il y a une espèce de complot.
Ça fait plutôt. Ça fait 11-10.
Un abandon.
Ça fait 11,
Camille,
11,
Camille crie au complot. Camille est donc là, Jean-Marie Bigard. De
J'assume. C'est un scandale.
Mais Camille, tu verras que c'est faux.
Prenez vos points. Moi,
je disais complot à Top Chef et Laurent Vergne m'a prouvé que c'était faux et donc j'ai eu tort. Et là, il n'y a pas de complot. Goff sera.
Oui, là il n'y a que les faits, rien que les faits.
Ah oui, les faits.
T'inquiète pas, Camille, tu finiras par les battre.
Mais oui.
Bon, allez, merci à tous d'avoir participé. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un petit message sur les plateformes d'écoute, à vous abonner également pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez bien l'actu sur eurosport.fr. Je vous dis à demain. Ciao.
Salut.
Salut. Ciao.